Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Quelqu'un se souvient-il qu'au mois de juillet dernier, l'Europe paniquait à cause de la situation économique grecque et qu'il y avait une atmosphère de crise permanente entre Paris, Bruxelles, Berlin et Athènes? Je pose cette question parce qu'une crise semble avoir chassé l'autre, celle des réfugiés syriens ou irakiens, a chassé le combat entre austérité et, ouvrez les guillemets, autre politique. Et pourtant, malgré les apparences, rien n'est terminé. Demain, ont lieu en Grèce des élections générales. Le Premier ministre Alexis Tsipras remet son mandat en jeu après l'accord obtenu au début de l'été avec la zone euro. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette crise qui a mobilisé les institutions financières internationales, les gouvernements, les partis politiques, les commentateurs et les citoyens de l'ensemble des pays européens. Et c'est aussi l'occasion pour nous de poser d'autres questions. La situation grecque est-elle réglée? Le budget grec est-il stabilisé? Les réformes imposées par l'Europe sont-elles appliquées? La dette grecque est-elle désormais gérable? Est-ce qu'on a appelé le Grexit, la sortie de la Grèce de la zone euro, définitivement écartée? Question que je vais poser aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Kostas Vergopoulos.
Bonjour.
Votre nom laisse deviner quelques racines grecques. Vous êtes économiste, oui. Maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, oui. Et professeur émérite. Il y a quelques jours, vous étiez encore à Athènes. Quelle ambiance avez-vous laissé derrière vous?
Mais écoutez, vous venez de dire une chose qui mérite d'être examinée. Vous venez de dire une crise chasse l'autre. La crise des réfugiés chasse la crise.
Dans l'actualité, en tout cas.
Dans l'actualité. Ce n'est pas tout à fait exact. Pour la bonne et simple raison que ces centaines de milliers de réfugiés cherchent à se caser et cherchent pratiquement de l'emploi. Et c'est de l'emploi, de l'insuffisance de l'emploi que souffre l'Europe à cause des politiques d'austérité qui sont menées depuis maintenant 6 ans en Europe, à l'instigation sous la houlette de l'Allemagne, qui veut une politique de rigueur, des politiques de rigueur partout, et que le taux de chômage augmente, 12% en moyenne dans la zone euro. Alors, le problème, donc, l'un entre dans l'autre. Il ne se substitue pas.
Il faut
créer plus d'emplois.
On va continuer le débat.
Pour accueillir les réfugiés et pour résoudre le problème de l'Européenne.
Kostas Vergopoulos, laissez-moi vous présenter les autres invités. À vos côtés, il y a Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille, membre de l'École d'économie de Paris. Vous travaillez en ce moment à un rapport destiné à la Caisse des dépôts et consignations, un des bras financiers de l'État, et qui est intitulé « Politique budgétaire et croissance soutenable dans les pays européens de la Méditerranée ». Donc, évidemment, la Grèce. Gilles Dufresneau, selon vous, cette crise grecque est derrière nous ou pas du tout?
Selon moi, elle n'est pas du tout derrière nous. Les problèmes restent entiers à régler. Et les problèmes restent d'autant plus en suspens qu'il y a, me semble-t-il, une incompréhension entre ce que souhaitent la Commission et la Troïka et la vision du gouvernement grec. Donc, je pense que on va encore longuement parler de la Grèce.
Alors avec nous dans ce studio également, Salif Chérifsi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénégalais, Salif Chérifsi. Entre 2000 et 2003, vous avez été ministre chargé des questions économiques au cabinet du président de la République du Sénégal, à l'époque Abdoulaye Wade, et vous êtes le secrétaire général de l'Association des économistes sénégalais. Vous avez également piloté la négociation du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En quoi est-ce que cette crise grecque vous intéresse, vous, l'économiste sénégalais? Salut Chérifsi.
J'espère que nous reviendrons sur cette question un peu plus. Mais la crise nous intéresse parce que, à y regarder de près, ce qui se passe en grec en termes d'austérité et de déqualification de l'État, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Et nous en avons beaucoup discuté depuis 2011 avec nos amis grecs, dans le cadre, je l'ai dit tout à l'heure, des forums mondiaux sociaux.
Avant
et c'est une occasion d'apprendre donc les uns des autres. Et donc j'espère que nous verrons la profondeur et le caractère inacceptable et répressif des décisions prises dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et dans le cas également de la Grèce.
Avec nous également Jérôme Héricourt, quatrième invité, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Héricourt, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Brest, également conseiller scientifique au CEPI, le principal centre de recherche économique français. Le CEPI vient de publier aux éditions de la Découverte son ouvrage annuel sur l'économie mondiale, c'est très sobrement intitulé Économie mondiale 2016, et vous co-signez dans ce livre le chapitre consacré au lien entre inégalité et instabilité financière. Est-ce que la zone euro est à l'abri de nouvelles instabilités, Jérôme Héricourt ?
Certainement pas, hein. Je rejoins tout à fait Gilles Dufresneau là-dessus. On n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle crise, pour la simple et bonne raison que les trois problèmes que pose la Grèce, c'est-à-dire la mise en place d'un État fonctionnel, la question de sa solvabilité, la Grèce n'est toujours pas solvable en l'État, et la question du modèle économique de la Grèce, aucune de ces trois questions n'est véritablement traitée par le plan qui a été mis en place à partir de la mi-juillet. Donc, la crise est loin d'être derrière nous.
Alors, au cours de cette émission, outre vos réponses à mes questions, nous entendrons également des reportages de nos correspondantes et envoyées spéciales à Athènes, Charlotte Stivenard et Anastasia Becchio.
I'm here ready for an honest compromise.
Je suis ici prêt à un autre compromis. Nous devons ça aux peuples européens qui veulent l'unité de l'Europe et pas la division. Nous pouvons atteindre un accord ce soir si toutes les parties le veulent.
Nous avons trouvé un accord depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec. La Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Et donc, quant au fond et quant à la substance, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons pu trouver.
Il y a eu une décision à bien des égards historique. Car si la Grèce était sortie de la zone euro, qu'aurait-on dit ? Que la zone euro n'était pas capable d'assurer son intégrité, sa solidarité ? Qu'aurait-on dit des Grecs qui n'auraient été pas capables de prendre leurs responsabilités ? Qu'aurait-on dit de la France, de l'Allemagne, que nous n'aurions pas été au rendez-vous ? La zone euro aurait reculé alors que l'Europe doit avancer et porter un projet qui puisse protéger les peuples. Car l'euro protège les pays qui sont partie prenante de cette zone monétaire.
La Grèce a déjà obtenu une aide. Les créanciers privés ont accepté une décote et nous avons allongé les maturités et réduit les taux d'intérêt. Nous pourrons reparler de telles possibilités, mais à condition que le premier examen du programme à négocier soit achevé avec succès. Cette question sera alors discutée, pas maintenant, mais à ce moment-là. Eh bien, il faut accepter qu'un allègement pur et simple de la dette ne soit pas possible.
Alors, vous aurez reconnu par ordre d'entrée en scène, en quelque sorte, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, François Hollande, le président français, et la chancelière allemande Angela Merkel. Un peu d'histoire immédiate avec ces extraits sonores, mais avec deux mois de recul. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette crise de l'été, Kostas Georgopoulos?
Comme l'a dit le collègue
Jérôme Héricourt.
Jérôme, tout à l'heure. Et il y a un programme concernant uniquement la question de la dette, du prêt accordé à la Grèce, mais il n'y a pas de programme véritable de mise en place d'une économie grecque qui fonctionne, qui lui permet de croître et avec le produit de cette croissance rembourser de manière saine sa dette. Au contraire, ce programme qui est mis en place, qui a été accordé le 12 juillet, c'est un programme comme les deux autres précédents, un troisième programme qui pousse le pays encore plus profondément dans la récession. Donc, diminution permanente, constante du PIB, donc diminution de la capacité du pays de rembourser sa dette. Donc, c'est un programme qui ne tient pas compte de la réalité.
Jérôme Héricourt, dans l'extrait sonore qu'on a entendu tout à l'heure, François Hollande qualifie l'accord du mois de juillet d'historique. Vous êtes d'accord avec ce qualificatif ?
Il est historique si on raisonne en position. C'est-à-dire qu'il aurait été vraiment historique s'il n'y avait pas eu d'accord et si la Grèce était sortie de la zone euro. Là, il est historique dans la mesure où on a empêché un pays de sortir de la zone euro. On a empêché un événement historique de se produire. Bon, je ne sais pas si c'est suffisant pour parler vraiment d'événements historiques, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire M. Vergopoulos, c'est effectivement, ce plan, il pose à aucun moment la bonne question. C'est que si l'économie grecque continue de décroître de 1% jusqu'à la fin des temps, la dette ne sera jamais remboursée. Donc, même si la Grèce croit, même si la Grèce, par miracle, retrouvait de la croissance dans les mois et dans les années à venir, je suis pas sûr qu'elle serait solvable. Je suis à peu près certain, on pourra y revenir, qu'elle ne serait pas solvable. Mais même si on coupe une partie de la dette, on dit cette partie de la dette, on l'abandonne, il reste cette partie-là à rembourser. Si la Grèce ne fait pas de croissance de manière durable, elle ne pourra rien rembourser du tout. Et cette question-là, elle n'a pas été posée de manière sérieuse.
Gilles Dufresneau, la Grèce a accepté quoi exactement cet été ?
Alors, je crois que il faut avoir à l'esprit la chose suivante, c'est que le plan n'est pas un plan économique, c'est un plan d'aide d'urgence, et c'est un plan d'aide d'urgence qui s'inscrit dans les mêmes plans qui avaient été proposés au Portugal et à l'Espagne. Donc, ça explique peut-être que ce que la Grèce a accepté, c'est le fait que, étant en difficulté financière pour honorer ses remboursements vis-à-vis de la BCE, du Fonds monétaire international, elle avait besoin d'une aide de la Banque centrale européenne. Elle avait besoin d'une aide d'urgence qui était apportée dans le cadre d'un programme, qui est un programme d'aide. Bon, c'est vrai que l'inconvénient, si on peut dire, de ce programme, c'est que ça contrepartie, c'est en quelque sorte des plans d'ajustement structurel. Peut-être qu'on va y revenir, mais il ne faut pas mélanger deux choses. C'est un plan d'aide avec ses conditionnalités que l'on peut contester, et ce n'est pas un plan de croissance. Et de mon point de vue, ce n'est pas le travail de la Commission. C'est quelque chose qui revient au gouvernement grec. Peut-être qu'on en dira quelques mots ensuite. Donc ce que la Grèce a accepté, c'est de ne pas tomber en faillite, et la contrepartie de ses créanciers, c'était de lui demander des réformes financières.
Vous pensez que la Grèce n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce plan ?
Je pense, pour parler avec réalisme, je crois qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Simplement quitter l'Union européenne. Mais le grec exit était impossible, juridiquement parlant. C'est pas possible. On l'a beaucoup agité pour faire de l'idéologie et de la manipulation, mais ce n'était pas possible. Exclure la Grèce par la Commission, c'était pas possible. Mais je crois que vous avez demandé si c'était pas, il n'y avait pas une nouveauté dans ce qui se passait. Oui, j'ai dit qu'il y a une nouveauté en termes d'effets répressifs. Jamais un État dans l'Union européenne n'a été soumis à une telle répression, parce que ce pays a résisté à un moment donné.
Répression économique.
Oui, répression économique et pression politique, je crois que c'est ça. Et la suite a été devant l'abdication dans une certaine mesure du gouvernement de Tsipras. Les mesures sont tombées, mais il me paraît évident tout de suite de dire que on va irrémédiablement vers un tassement des revenus et une augmentation du chômage. Ça me paraît évident. Les ménages aussi, avec la mesure les concernant, cette histoire d'assainissement des banques, là aussi, ça va créer un problème de saisie, à mon avis, j'ai bien regardé la question, et d'augmenter tout simplement la précarité dans ce pays.
Alors, si vous permettez, Monsieur Boris, et par suite de la dernière intervention de notre collègue, j'ajouterais que le problème grec n'est pas seulement grec, mais c'est le problème de toute la zone euro, parce que les politiques d'austérité qui s'appliquent, comme je l'ai dit, depuis 6 ans, n'ont que des effets négatifs sur la croissance. Et donc la croissance de la zone euro est à peu près 0,4. Et cela veut dire automatiquement que la dette croît plus rapidement que le PIB de la zone euro. Cela veut dire que la dette devient de plus en plus le problème numéro un de toute la zone euro, et pas seulement de la Grèce. La Grèce est à l'avant-garde, la pointe de ce problème, c'est la partie visible de l'iceberg et de la dette, mais la dette est quelque chose qui menace la zone euro tout entière à cause de sa politique qui est fondée sur le principe de l'austérité, et donc de la récession du PIB et de l'accroissement du chômage.
Jérôme Héricourt, c'est le troisième plan d'aide à la Grèce depuis qu'on a découvert en 2009 qu'il y avait entre guillemets un problème grec. J'insiste sur les guillemets. En quoi ce troisième plan diffère-t-il des deux premiers ?
Justement, son problème, moi, à mon avis, c'est qu'il ne défère pas assez de premiers. Je voudrais juste rebondir, répondre à votre question en rebondissant sur ce que Gilles Dufresneau disait à l'instant. Dire que ce n'est pas le rôle de la Commission, que ce n'est pas le rôle de ce type de plan, de dire quelles doivent être les politiques de croissance, mais à un moment donné, il faudrait savoir. Ce qu'a dit Tsipras, ce qu'a dit le gouvernement d'Alexis Tsipras en avance, c'est dire, OK, on est d'accord, on va faire des excédents budgétaires primaires. C'est-à-dire, on va faire en sorte que l'État grec soit excédentaire, qu'il y ait plus de recettes que de dépenses une fois qu'on enlève les intérêts de la dette. Nous, ce qu'on réclame, Syriza, c'est que vous nous laissiez décider des moyens pour arriver à cet excédent primaire. Et là, la Commission et d'autres institutions sont arrivées en disant non, on va vous dire comment vous allez arriver à cet excédent primaire. Et ce qu'on fait avec ce plan-là, c'est exactement ça. On leur dit, voilà comment vous allez faire pour dégager des excédents primaires en 2016, 2017, 2018, 2019. Après, je pense qu'on abordera la question de savoir si ces excédents primaires, ils peuvent y arriver et pendant combien de temps. Moi, je pense que c'est juste pas possible, parce que c'est les condamner à pas investir dans le futur, à pas investir dans l'éducation, à pas investir dans l'appareil productif pendant 40 ans. Mais là, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et d'une certaine manière, donc, on leur dit quel type de politique économique ils doivent mettre en place. Donc d'un côté on leur dit ça et d'un autre côté on dit ah ben non, on se mêle pas de savoir quel doit être le modèle économique de la Grèce. Je pense que là il y a une contradiction.
Si vous permettez.
Oui, Constantin Koplos.
J'ajouterai un élément de plus, c'est quel est le poids exactement du service de la dette annuelle que la Grèce doit acquitter à ses créanciers chaque année. Alors en ce moment qui est jusqu'à 2022, c'est un taux assez bas, c'est-à-dire seulement 16-17% du PIB, ce qui est déjà énorme. À partir de 2023, cela est prévu de monter à 32% du PIB chaque année. Vous vous rendez compte, un pays qui doit céder chaque année 32% de son PIB à ses créanciers, et actuellement 16 ou 17% à ses créanciers, et il est condamné à disparaître. Évidemment, une partie de ce montant est prêtée par les créanciers eux-mêmes, mais prêter dans le sens que ce nouveau prêt s'ajoute et de façon que la dette totale augmente encore plus rapidement que le PIB. Et au bout du compte, la Grèce se trouve encore plus endettée. Tout en payant 17% de son PIB annuel, elle est encore plus endettée qu'avant par rapport à son PIB qui ne cesse de se contracter.
C'est une mise sous tutelle de la Grèce ad vitam aeternam, Gilles Dufresneau?
Alors écoutez, je ne sais pas, mais par contre, n'oublions pas quelque chose, c'est-à-dire que nous raisonnons en considérant la Grèce de manière isolée comme un pays. Il y a deux éléments qui sont importants. La Grèce fait partie d'une union monétaire, et toutes les mesures qui lui sont imposées, alors que je critique, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais il y a un cadre qui est celui de l'union monétaire, et n'oublions pas quelque chose, c'est que depuis 2010, depuis qu'il y a eu cette crise financière et les crises de dette publique, tous les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour réviser l'ancien pacte de stabilité et de croissance, et donc ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de règles, on essaiera d'expliquer pourquoi, qui ont durci en fait les règles budgétaires. Donc, il y a une question de cohérence, c'est-à-dire que, ou bien on dit on n'est pas d'accord avec cette mesure et à ce moment-là, il faut pas rester dans l'Union, ou bien on dit on a voté un ensemble de mesures et on doit aller jusqu'au bout. Et je précise que je ne défends pas la Commission, mais j'essaie d'expliquer simplement que on peut pas comprendre ce qui se passe si on fait abstraction du fait que ce sont des règles qui sont adoptées pour maintenir la cohésion de l'Union monétaire. Parce que ce qu'on sait très bien, c'est que dans une union monétaire, où vous n'avez pas de fédéralisme budgétaire, c'est le problème, ce qui manque à la zone euro. Quand vous n'avez pas de fédéralisme budgétaire, les États sont tentés de faire ce qu'ils veulent, et c'est tout à fait humain. Il y a un risque très important que, si vous avez une crise très importante, que vous ayez un État qui a un déficit budgétaire élevé, que les autres, par solidarité, prennent en compte ce déficit budgétaire. Et si on ne met pas de garde-fous, il y a un risque que finalement le mécanisme de solidarité ne tienne pas. Alors peut-être qu'on dira, on parlera peut-être de l'Allemagne, mais l'Allemagne a expérimenté ça aussi par le passé.
Jérôme Méricourt, brièvement.
Si vous pouvez, en 30 secondes, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Gilles Dufresneau vient de dire à un élément près. C'est que j'ai l'impression que Gilles prend pour acquis que le fédéralisme budgétaire, on l'aura pas. Effectivement, le fédéralisme budgétaire, c'est le fait qu'aux États-Unis, quand un État va pas bien, les autres viennent à sa rescousse et le financent via le budget fédéral. Mais la gouvernance par les règles, c'est pas une bonne gouvernance. La gouvernance qui consiste à dire, c'est une gouvernance qui maintient les pays de la périphérie de la zone euro, objectivement, dans un état de croissance faible.
Eh bien, on continuera ce débat dans la deuxième partie de l'émission parce qu'on est au terme de la première partie. Nous nous retrouvons pour la suite d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans quelques minutes après un flash d'actualité. Bienvenue dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la Grèce, l'austérité et la zone euro. Nous en parlons avec quatre invités, Salif Cherifsi, économiste sénégalais, ancien ministre de l'économie, Jérôme Héricourt, professeur à l'université de Brest, Kostas Vergopoulos, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Gilles Dufresneau de l'école d'économie ex-Marseille. Nous sommes à la veille des élections grecques, élections provoquées par la démission du premier ministre Alexis Tsipras, qui cherche une confirmation pour sa majorité. Au mois de juillet dernier, l'Europe a imposé à la Grèce un régime d'austérité très dur. La mise en place de cette politique passe pour une bonne part par le contrôle de la distribution du crédit, un contrôle qui complique la vie des acteurs économiques grecs. C'est l'objet du reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Charlotte Stivnar à Athènes.
Les lunettes de soleil sont sagement alignées sur des étagères lumineuses en bois sombre. C'est la boutique d'Andreas Exarchos. Cet entrepreneur importe des branches de lunettes, principalement de France. Mais depuis la mise en place du contrôle des capitaux fin juin, difficile de payer ses fournisseurs à l'étranger.
Vous demandez à la banque l'autorisation de faire un virement, vous leur envoyez vos factures, vous mettez la valeur totale de ces factures sur votre compte, votre banque garde cet argent comme garantie pendant 5 jours, et ensuite votre fournisseur reçoit l'argent. Ça crée des problèmes supplémentaires de liquidité, car l'argent reste bloqué pendant 5 jours.
Mais les banques choisissent les virements prioritaires. Yanis Karachalios, un imprimeur d'étiquettes, n'en fait visiblement pas partie. En 2 mois, il a accumulé 20 000 euros d'impayés. Il a peur de devoir fermer. Il espère que les élections de dimanche vont permettre le retour à la stabilité.
La première chose à faire, c'est de faire fonctionner tout ça. Si les entreprises ferment et que nous avons beaucoup de chômage, il n'y aura plus personne pour payer les retraites, pour payer tous ces gens.
Yanis Karachalios pourrait se fournir en Grèce. Mais le problème, c'est que les fournisseurs grecs préfèrent être payés en liquide. Or, les retraits sont aussi limités. La Confédération des indépendants artisans et commerçants a réalisé une étude 1 mois après la mise en place du contrôle des capitaux. Le chiffre d'affaires des petites entreprises avait alors chuté de moitié en moyenne. Personne n'était prêt, notamment en ce qui concerne les restrictions de retrait, explique Yorgos Sanopoulos, chercheur.
50% des petites entreprises n'utilisaient pas les paiements en ligne pour les transactions avec leurs fournisseurs. Et 70% d'entre elles n'utilisaient pas les machines électroniques pour faire des transactions avec leurs clients.
Selon cette étude, d'ici la fin de l'année, 63 000 petites entreprises pourraient fermer, ce qui représente environ 140 000 pertes d'emplois.
Alors c'était un reportage de Charlotte Stivnar à Athènes. Salif Cherifsi, je vous voyais réagir pendant ce reportage. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, je voulais dire que on ne peut pas, parce qu'il faut une certaine cohésion dans l'Union, se fonder sur ce que Jérôme vient de dire, la gouvernance par les règles, au moment où il y a une véritable crise du processus décisionnel dans l'Union européenne. Les sommets de la dernière chance se succèdent et cela a beaucoup décrédibilisé l'Union européenne. De l'autre côté, il faut voir les dégâts. La déconstruction totale d'une économie, un processus de transfert de ressources vers des détenteurs de capitaux. Je crois que on ne peut pas raisonnablement construire l'Union européenne de cette façon. Et on peut ajouter aussi qu'au niveau institutionnel, il faut clarifier cette position de la Troïka. D'où tient-elle cette décision ? D'où tient-elle cette force pour prendre les devants le plus souvent sur la Commission ? Je crois que voilà des questions de fond qu'il faut quand même discuter.
Kostas Vergopoulos ?
Oui, je voulais dire depuis tout à l'heure, à propos de la question des prétendues règles qu'il faut respecter. Eh bien, je vous le dis franchement, ouvertement, il n'y a pas de règles. Les règles sont montées de toutes pièces par l'Allemagne pour justifier sa position dans un sens ou même dans le sens contraire. Regardez, par exemple, la question qu'il est interdit à un pays de faire cessation de paiement. Ça n'existe pas comme règle. Ça a été inventé par M. Schäuble. Maintenant, on apprend que M. Schäuble, qui a défendu ce principe comme une règle, on apprend qu'il cherche de toutes pièce a inventé une formule qui lui permette de s'en sortir de sa règle, de la règle qu'il a inventée lui, à lui seul.
Mais pourtant, être en cessation de paiement, ce n'est pas une situation optimale pour un pays.
Non, je veux dire, selon l'interprétation allemande, la zone euro interdit à un pays de faire cessation de paiement. Ce n'est pas une option, c'est une situation, si cela se produit, d'extrême nécessité, d'urgence. On ne peut pas interdire qu'une telle situation se présente. Ça n'a aucun sens d'interdire qu'un pays fasse faillite à l'intérieur de la zone euro, parce que c'est fort probable que cela se produise. Mais je vous dis, l'Allemagne impose des règles selon son imagination, selon ses intérêts, et puis après, elle essaie de s'en sortir si ça ne marche pas. Parce qu'il est vrai qu'ils ont montré aussi, malgré tout ce que l'on dit de la politique allemande, une flexibilité. Ils acceptent énormément de choses contre lesquelles ils se sont montrés hostiles. Ils ont fait même des recours contre la politique de M. Mario Draghi, président de la BCE,
de la Banque Centrale Européenne,
à la Cour suprême allemande, à la Cour suprême européenne, contre. Et ils ont perdu. Et ils appliquent les décisions pour lesquelles ils étaient contre. Et les Allemands, malgré tout ce qu'on dit, et surtout Mme Merkel, est assez flexible, et finalement, et sous la pression des autres. Elle n'est pas inflexible jusqu'à la fin. Mais le problème fondamental, c'est que plus on pratique les politiques dites d'assainissement de la zone euro, c'est-à-dire d'austérité, réduction des dépenses publiques, et plus le PIB se contracte, et plus la dette monte par rapport au PIB, de façon qu'en ce moment, le taux moyen de la dette total de la zone euro par rapport au PIB total de la zone est très proche de 100%.
De 100%?
100%. Et c'est-à-dire ce qui est énorme. La dette augmente aussi même en Allemagne, elle est 80%. Alors que ce pays est un pays qui est largement excédentaire. Et en même temps, le problème avec l'Allemagne, c'est que malgré ses excédents, elle ne les recycle pas comme elle devait le faire de manière loyale. Et fut-il à l'intérieur de l'Allemagne. Malgré qu'au cours des 15 dernières années, l'Allemagne a des excédents extraordinaires, il est le premier pays excédentaire au monde, il est le dernier en investissement. Il n'investit plus.
Investissait
25% du PIB. En ce moment, il n'investit que 17%.
Revenons à la Grèce. Gilles Dufresneau, ces règles qui sont imposées par l'Europe, est-ce que ce sont elles qui sont génératrices de ce chômage qui est dénoncé ou décrit par les intervenants que Charlotte Simard rencontrait dans son reportage?
Alors pour vous répondre, je crois qu'il faut bien resituer deux choses. D'abord, pourquoi les règles ont-elles été amenées? Pour une raison qui est très simple, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a une union monétaire pour coordonner les politiques monétaires et la politique budgétaire quand on a plusieurs gouvernements? Les Américains n'ont pas ce problème parce qu'il y a un État fédéral, il y a un budget fédéral et il y a donc une banque centrale. La difficulté de l'Europe, c'est qu'on a plein de gouvernements, des gouvernements différents, et donc normalement les règles ne devraient pas s'imposer. Ça devrait être de la coordination de des politiques budgétaires. Malheureusement, l'histoire nous a montré que justement, si on a eu cette crise des dettes publiques, c'est parce que les États ne sont pas arrivés à se coordonner. Et donc, je ne dis pas qu'il faut défendre les règles, mais je dis simplement que les règles sont finalement apparues comme un moindre mal. Maintenant, est-ce qu'elles sont responsables du chômage ou pas ? Nous devons également, me semble-t-il, avoir en tête la chose suivante. La zone euro est divisée en deux, d'un point de vue économique.
Le Nord, le Sud.
Avec deux modèles économiques différents. C'est peut-être pour ça que les réformes structurelles ne conviennent pas à la Grèce. Pour les pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., leur croissance est essentiellement tirée par un modèle de croissance extraverti, c'est-à-dire ce sont des pays pour lesquels la croissance est due au fait qu'ils ont des exportations importantes, ils utilisent leur compétitivité, etc. Pour les pays du Sud, c'est pas du tout ça. Le moteur de la croissance a très souvent été la demande. Soit la demande privée, soit la demande publique. Et c'est clair que les politiques d'austérité budgétaire viennent en quelque sorte casser cette dynamique. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on a une zone euro qui est structurellement hétérogène. Et donc, la question, c'est il est évident que des mesures de réforme uniformes ne peuvent pas convenir à tout le monde. Donc, à mon avis, c'est, bon, il y a sans doute les règles, mais il y a le fait que, voilà, nous sommes face à ceci que, eh bien, lorsque vous avez un pays comme la Grèce où la demande publique est un moteur de la croissance économique, il est clair que l'austérité budgétaire rompt complètement le cercle vicieux de cette croissance.
Jérôme Héricourt, et donc le chômage va se poursuivre, va continuer à augmenter en Grèce?
À court terme, c'est certain, parce que bon, la croissance semblait redémarrer en 2014. Là, les incertitudes politiques et l'étranglement du secteur bancaire au printemps et au début de l'été, je pense que même en admettant que tout aille bien, comme par magie, à partir de maintenant, ils mettront au moins 2 ou 3 trimestres à s'en remettre. Cela dit, maintenant, juste pour rebondir sur ce que Gilles vient de dire sur les règles, une fois encore, on est complètement d'accord, hein, Gilles, c'est des rustines, les règles. C'est des rustines en absence d'État fédéral qui fasse des transferts, qui soient acceptés par tous de, disons, l'Allemagne et la France vers la Grèce et l'Espagne. Mais c'est pas pour autant que, une fois encore, ce sont des bonnes règles. Ces règles, elles ont causé notre retour en récession en 2012. Donc, la récession de 2009, tout le monde perd quelques points de PIB. Ça redémarre fin 2009, début 2010. Là, tour de vis budgétaire généralisé. Et là, quelle surprise, stagnation en 2012 et récession en 2013. Et là, on est en quasi-stagnation, c'est-à-dire qu'on est quelque part entre 0,5 et 1% de croissance, ce qui n'est pas suffisant pour faire baisser le chômage en France ou dans la plupart des pays. Alors maintenant, juste pour conclure d'une phrase, on nous parle « Ah mais l'Espagne, ça va beaucoup mieux ». Oui, je veux bien, l'Espagne, ils ont perdu peut-être 15% de PIB par rapport à leur trajectoire d'avant la crise. Ils sont à 26 ou à 27% de chômage. Je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de succès des politiques d'austérité.
Salut Pierre ici.
Moi, je crois que je suis assez d'accord sur ce souci de cohésion, de bonne tenue de l'économie dans l'Union européenne qui appelle certaines décisions politiques. Mais je crois que les règles, il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les mesures drastiques. Je crois qu'il faut les regarder, ces mesures, une à une. Si vous dites il y a une réduction des objectifs sociaux à l'état de tout le pays, une réforme fiscale favorable au capital, c'est exactement ce qui se passe en Grèce. La déréglementation du marché du travail et des échanges commerciaux, la désintermédiation, la dérégulation.
La désintermédiation, c'est quoi ?
La désintermédiation, c'est-à-dire que n'importe qui peut entrer dans l'espace grec et opérer comme il le souhaite, sans consulter qui que ce soit. Je crois que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. La stimulation également de l'épargne pension par capitalisation, l'affaiblissement syndical, c'est un fait dont on parle peu. Je crois que c'est important. La réduction des dépenses sociales et des subventions, la limitation de l'intervention de l'État, l'obligation pour cet État de vendre les entreprises rentables, le respect des échéances, c'est extrêmement rigoureux. Mais comment, dans ces conditions, peut-on arriver à un effort d'accroissement des recettes? Comment peut-on augmenter la croissance dans ces conditions? Je crois que voilà le corpus, si je puis dire, d'une politique d'austérité. Et c'est ce que condamne outre-Atlantique Paul Krugman, c'est ce que condamne Stiglitz. Et tous, je pense que nous sommes dans une certaine mesure sur la même longueur d'onde. Les politiques d'austérité, encore une fois, si on regarde les pays du Sud soumis à l'ajustement structurel, n'ont pas donné des résultats significatifs autrement que de détruire complètement les économies.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la Grèce, de l'austérité, de la zone euro. À la veille des législatives en Grèce, 4 invités dans ce studio. Salif Chérifsi, économiste sénégalais. Jérôme Héricourt, professeur à l'université de Brest. Kostas Vergopoulos, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Gilles Dufresneau de l'école d'économie Aix-Marseille. Nous parlions à l'instant de la politique d'austérité imposée à la Grèce. Parmi les conséquences dans la vie quotidienne, la dégradation du système de santé. Pour permettre aux plus démunis de se soigner, des cliniques solidaires sont donc apparues à l'initiative de médecins bénévoles. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de l'envoyé spécial de RFI, Anastasia Becchio, dans l'une de ces cliniques, dans le quartier populaire d'Omonia, au centre d'Athènes.
Je suis venue prendre rendez-vous pour voir des médecins, dentistes, endocrinologues, gynécologues et psychologues. Je suis au chômage depuis 5 ans. Si je vous parle du chômage, c'est parce que ça a créé une réaction en chaîne.
Maria, 40 ans, le visage creusé, les dents très abîmées, n'a jamais pu retrouver de travail décent depuis qu'elle a été licenciée de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière spécialisée. Elle se nourrit à la soupe populaire. Pour se soigner, elle pourrait aller à l'hôpital, mais l'attente est souvent longue et les soins pas vraiment à la hauteur.
J'ai un carnet qui prouve que je n'ai pas de revenus et qui me permet de me faire soigner gratuitement dans les hôpitaux. Mais la dernière fois que j'y suis allée, ils m'ont juste enlevé les dents alors qu'ils devaient simplement réparer mes caries. Ils m'ont ôté 3 dents, comme ça. Il n'y a pas de soins médicaux corrects à l'hôpital. Demain, si j'ai un problème avec mon rein, qu'est-ce qu'ils vont faire ? M'enlever le rein ?
C'est comme ça qu'il se passe. Voilà. Il y a même une valise par ici. C'est d'Italie, ça.
Dans la pièce voisine, Sofia Tsitsikou, pharmacienne à la retraite, trie les médicaments nouvellement arrivés qui s'empilent sur une grande table. Ce sont des dons de la diaspora grecque ou d'associations caritatives.
S'il y a des médicaments qui arrivent aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine n'existerait plus parce que il y a un besoin, une demande et des urgences qui sont vraiment très fortes. Et plus les chômeurs augmentent, plus le besoin se présente quelques mois plus tard.
En perdant leur travail, les gens perdent aussi la possibilité de se soigner. Près de 2,5 millions de Grecs vivent aujourd'hui sans assurance maladie. Quant aux hôpitaux publics qui ont subi des coupes drastiques, ils se tournent parfois vers ces cliniques solidaires pour des donations. Ces cliniques qui voient aujourd'hui affluer une population très diverse.
Au début, c'était surtout des réfugiés, des personnes sans abri, des très pauvres vraiment. Et puis, petit à petit, il y a toute la classe moyenne qui ressent ce besoin parce qu'il y a tous ces magasins qui ferment, les petits propriétaires n'ont plus d'emploi et ne sont plus couverts d'aucune sécurité sociale et aussi d'aucune aide sociale. C'est invisible, ça ne se voit pas sur les statistiques. On parle du chômage de à peu près 30%, mais là, ils ne sont pas comptés, ces propriétaires, ces petits commerçants. On voit ici des personnes bien habillées qui viennent. Ce sont des situations vraiment inimaginables pour un pays développé.
Le gouvernement d'Alexis Tsipras a aboli le ticket modérateur de 5 euros dans les hôpitaux publics et a annoncé qu'il voulait engager 4 500 personnes dans le secteur médical. C'était avant que le Premier ministre de gauche ne dise finalement oui au plan d'austérité des créanciers internationaux. Malgré tout, Sofia, la pharmacienne, continue d'espérer une victoire de Syriza. Ce sera toujours moins douloureux qu'avec la droite, conclut-elle, car c'est elle qui a mené la santé à ce désastre.
C'était donc Anastasia Biekio, envoyée spéciale de RFI à Athènes, dans le quartier populaire d'Omonia. C'est la misère qu'elle nous décrit, oui. Kostas Ergopoulos.
Oui, oui, la situation dans les hôpitaux et l'état de santé, la situation sanitaire de l'ensemble du pays se dégrade très rapidement par manque de financement, manque de moyens. Et c'est une situation dramatique. Et je voulais ajouter aussi, pour rembourser la dette, il y a le problème du refinancement. Historiquement, à travers les siècles, il n'y avait aucun problème de dette, puisque les dettes étaient toujours refinancées par de nouveaux prêts qui coûtaient moins cher que les précédents. Eh bien, c'est la première fois que Mme Merkel impose le refinancement à des taux d'intérêt supérieurs au taux d'intérêt contracté initialement pour ses dettes. Et elle défend cela d'une façon idéologique. Elle dit qu'il faut que le taux d'intérêt soit plus élevé pour punir ceux qui ont commis le péché de s'endetter. N'oubliez pas qu'en allemand, le mot dette et erreur est le même, Schuld. Et c'est-à-dire, les débiteurs sont des fauteurs moraux qu'il faut punir. Donc, il dit, pour des raisons pédagogiques, il faut élever les taux d'intérêt des nouvelles aides pour obliger les gens à se comporter de manière morale. C'est-à-dire, maintenant, j'ajouterai que c'est la première fois, ce troisième plan d'aide qui a été accordé le 12 juillet de cette année, où les taux d'intérêt ont baissé à un niveau inférieur. Là, il y a un refinancement sain. Ils ont baissé à 1%. 1%, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Parce que jusqu'à maintenant, le taux était de 4 ou 5%. Et pour financer des dettes contractées à 1 ou 2%.
Gilles Dufresno, l'Allemagne impose vraiment ces conditions de refinancement draconiennes ?
Alors écoutez, je crois que ce que nous disons tous, c'est une certaine réticence face à ce qu'on peut appeler grossièrement les politiques libérales et les coûts sociaux et politiques qu'elles peuvent avoir. Maintenant, la question est la suivante, c'est que l'Allemagne a un modèle économique en tête. Bon, comme c'est disons les choses un peu simplement, l'euro c'est le mark. Donc l'Allemagne peut, d'ailleurs n'est pas la seule, mais bon, disons que l'Allemagne, avec un certain nombre de pays, peut essayer de vouloir imposer ce modèle. Alors, tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Europe. Je vais prendre trois exemples, l'Italie et la France. Donc, avant l'élection de Monsieur Matteo Renzi, pour se faire élire, Monsieur Matteo Renzi a dit « Le modèle que nous impose l'Allemagne n'est pas un bon modèle. Moi, si vous m'élisez, je vais aller à l'Union européenne pour demander qu'on change ça. » Monsieur Matteo Renzi a été élu, rien ne s'est passé. François Hollande, au moment de sa campagne présidentielle, disait la même chose. « Moi, je ne suis pas pour l'austérité, je suis pour la croissance économique, il faut changer de modèle. Monsieur Hollande a été élu, rien ne s'est passé. » Syriza s'est fait élire sur le même discours et on voit les difficultés en fait qui se posent. Donc finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Bon, on continue d'appliquer ces politiques libérales. Alors la question c'est, est-ce que ce sont elles qui sont responsables de ce qui se passe, finalement des coûts sociopolitiques qu'on observe, ou est-ce que c'est le fait qu'elles soient appliquées comme des thérapies de choc ? Parce qu'on peut aussi donner historiquement des exemples de pays qui ont été dans des situations de surendettement, qui ont appliqué ces genres de réformes, mais ça a fonctionné parce que les réformes ont été très très graduelles, diffusées dans le temps. Donc ça, je crois que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement le problème actuel, c'est pas la thérapie de choc, c'est le fait que l'austérité soit dure, plutôt que et que les réformes structurelles soient extrêmement violentes et appliquées de façon rapide.
Dans les deux cas, c'est la même chose.
Je sais pas.
Salut Pierre.
Oui, je voudrais réagir sur ce que Vergopoulos vient de dire sur les taux d'intérêt bas. Les taux d'intérêt bas, c'est une arme à double tranchant. En tout cas, là, je parle en tant que résident du Sud, ça fait apparaître le phénomène qu'on appelle l'argent facile. Il y a une entrée automatique, mécanique, ça agit mécaniquement, automatiquement sur les pays, de sorte que le refinancement devient beaucoup plus facile, et l'argent est là, mais ça entraîne aussi un mouvement de capitaux venant du Nord à la recherche de rentabilité. Et ça donne une impression de sécurité et de viabilité de l'endettement. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que...
Vous êtes plutôt sur la ligne Merkel, alors ?
Non, pour ce qui nous concerne, oui, parce que c'est des faits concrets. Cet argent facile fait que tous les pays, Sénégal et autres, sont sur le marché financier. Le seuil de viabilité de la dette n'est pas franchi, mais le rythme d'endettement est préoccupant. Et je termine en revenant sur les dégâts sociaux et sanitaires dus aux politiques d'austérité. Ces politiques, il faut dire aussi qu'on les appelle aussi des politiques de convergence ou des plans d'émergence qu'on voit un peu partout en Afrique. Je crois que la Banque mondiale elle-même avait écrit dans un de ses rapports annuels en disant que pendant la période de mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, 16 pays en Afrique au sud du Sahara avaient connu à la fin des années 90 un niveau de vie qu'ils avaient rencontré au moment de l'indépendance. Je crois que donc, étant dans des pays différents, des pays sud de l'Europe, relativement pauvres, je crois qu'il faut tenir compte de l'effet différencié des mesures d'austérité sur chaque pays et rechercher les mesures idoines pour permettre à ces pays de se redresser.
Jérôme Héricourt.
Oui, en fait, il y a dans tout ce qu'ont dit les autres intervenants, finalement, il y a deux choses qui émergent. Il y a un premier point, je suis complètement d'accord avec ce que j'ai disais, les réformes, enfin... Les réformes structurelles, ça prend du temps. Et je crois que déjà, l'un des premiers problèmes des plans qu'on impose à la Grèce, c'est qu'on fait comme si réformer le fonctionnement d'une économie, je vous parle même pas du modèle économique, là, c'est encore autre chose, mais réformer le fonctionnement d'une économie, réformer le marché du travail, réformer le marché des biens, on pouvait faire ça en 2 ans. Les réformes structurelles, ça a un coût. Avant de produire des effets qu'on espère bénéfiques, et ça, c'est encore autre chose, mais avant de produire des effets bénéfiques, ça coûte à court terme. Ça atteint les agents économiques dans leurs habitudes, ça leur coûte quelque chose, donc ça produira forcément des coûts. Là, on essaye, on dit à la Grèce, vous allez tout faire en même temps et vous allez tout faire très vite. Premier point. La deuxième chose, c'est finalement, à long terme, est-ce que ça marche ? Est-ce que l'austérité, ça marche ? L'austérité, c'est deux choses. C'est une politique budgétaire restrictive, d'accord ? Et avec les conséquences sociales qu'on a entendues dans le reportage qui peuvent être terribles. Et puis, il y a un autre côté, c'est le versant économie réelle, c'est on baisse les salaires pour rétablir la compétitivité de l'économie. Alors, est-ce que ça marche ? Paul Krugman, qui est très opposé à ces politiques, vient de dire dans une colonne, oui, à long terme, ça peut marcher. Mais au prix de conséquences sociales et d'un coût humain, absolument... terrible. Alors effectivement, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'Espagne, hein, ça peut fonctionner. Est-ce que ça peut fonctionner en Grèce ? Il faut, pour qu'une baisse des salaires, pour que la restauration de votre compétitivité externe, ça fonctionne, il faut que vous ayez quelque chose à exporter. L'industrie en Grèce, c'est 5% du PIB. Et ils peuvent pas, c'est peu de choses par rapport à l'Espagne ou à la France. Donc le problème, c'est que la Grèce prend de plein fouet toutes les conséquences négatives pour le moment sans avoir même l'espoir d'avoir un peu de croissance après comme l'Espagne, parce que le modèle économique de la Grèce ne lui permet pas de profiter d'une restauration même brutale et même douloureuse de sa compétitivité à l'export.
Kostas Georgopoulos, ce sera le mot de la fin.
Oui, écoutez, l'Europe est le pays, la région la plus endettée au monde, avec la performance économique la plus pitoyable, près de 0%. Comparé avec l'Amérique, d'où la crise est partie en 2008, en ce moment, elle a une croissance 3 ou 4%, elle a réduit le chômage à 5%, elle est considérée comme en plein emploi, et elle n'a jamais passé par l'austérité. Il n'y a jamais eu de politique d'austérité. Au contraire, il y a eu toujours des politiques de relance, y compris dans le secteur public, par la commande et la mise en place de grands travaux par le président Obama. Donc, quel besoin avons-nous de discuter encore sur les politiques européennes et leurs responsabilités, les politiques appliquées en Europe et leurs responsabilités sur les résultats médiocres et mauvais si nous avons de l'autre côté de l'Atlantique la preuve du contraire?
Merci, c'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la Grèce et à l'euro et à l'austérité. Ludivine Amado est à réaliser et mise en onde cette émission. Merci à vous quatre, Kostas Georgopoulos, Jérôme Hérucourt, Salif Cherifsi et Gilles Dufresneau d'y avoir participé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission écho d'ici, écho d'ailleurs.